Chapitre 5. L'intendant et le roi. Le doute et une grande peur avaient pesé sur la cité du Gondor. Le beau temps et le clair soleil n'avaient paru que moquerie à ces hommes qui ne comptaient plus sur aucun espoir mais qui, chaque matin, appréhendaient de funestes nouvelles. Leur seigneur était mort brûlé, le roi du Rohan gisait sans vie dans leur citadelle, et le nouveau roi, venu à eux dans la nuit, était reparti en guerre contre des forces trop noires et trop effroyables pour être vaincues par la bravoure et la puissance des armes, si grandes qu'elles fussent. Et aucune nouvelle ne venait. Depuis le jour où l'armée avait quitté le Val de Morgul et pris la route du nord à l'ombre des montagnes, aucun message ne leur était parvenu, ni aucune rumeur de ce qui se passait dans l'Est menaçant. Deux jours seulement après le départ des capitaines, la dame Éowyn demanda aux femmes qui la soignaient de lui apporter des vêtements, et elle ne souffrit aucune discussion mais se leva plutôt. Et quand elles l'eurent habillée et eurent fixé son bras dans une écharpe de linge, elle-même se rendit auprès du gardien des maisons de guérison. « Monsieur, dit-elle, je ressens une grande agitation et ne puis demeurer plus longtemps dans l'oisiveté. « Madame, répondit-il, vous n'êtes toujours pas guérie, et j'ai reçu ordre de vous soigner avec une attention particulière. Vous n'étiez pas censé sortir du lit avant 7 jours encore, selon les instructions qu'on m'a données. Je vous supplie d'y retourner. « Je suis guérie, dit-elle, guérie dans ma chair tout au moins, sauf mon bras gauche, et il ne me gêne plus. Mais je vais bientôt retomber malade s'il n'est rien que je puisse faire. N'y a-t-il aucune nouvelle de la guerre? Les femmes ne peuvent rien me dire. » « Il n'y a aucune nouvelle, » répondit le gardien, « sinon que les seigneurs se sont rendus au Val de Morgul, et l'on rapporte que le capitaine récemment venu du Nord est celui qui les mène. Un grand seigneur que cet homme, et un guérisseur au surplus. Et il me paraît plus qu'étrange que la main guérisseuse dût aussi porter l'épée. Il n'en va pas ainsi au Gondor de nos jours, encore que ce fût le cas autrefois, si les contes anciens ont du vrai. Mais il y a longtemps que nous autres guérisseurs ne cherchons plus qu'à recoudre les plaies laissées par les hommes d'épée. Non qu'il y ait suffisamment à faire sans leur apport. Les maux et les malchances du monde sont bien assez nombreux sans qu'il soit besoin de guerre pour les multiplier. Il n'est besoin que d'un seul adversaire pour engendrer une guerre, maître gardien, répondit Éowyn. Et ceux qui n'ont pas d'épée peuvent quand même tomber sous les lames. Voudriez-vous que les gens du Gondor se bornent à rassembler vos herbes, tandis que le Seigneur Sombre rassemble des armées? Et il n'est pas toujours bon d'être guéri dans sa chair. Pas plus qu'il n'est toujours mauvais de tomber au combat, fût-ce dans d'atroces souffrances. Si cela m'était permis, en cette heure funeste, je choisirais plutôt cela. » Le gardien la considéra un moment. Elle se tenait là, altière, les yeux brillants dans un visage d'albâtre, le poing crispé sur son côté droit, tandis qu'elle regardait par la fenêtre donnant sur l'est. Il soupira et secoua la tête. Après un silence, elle le regarda de nouveau en face. « N'y a-t-il rien à accomplir ? » lui dit-elle. « Qui dirige cette cité ?»« Je ne le sais pas très bien, » répondit-il. « Ces choses ne sont pas de mon ressort. Un maréchal est à la tête des cavaliers du Rohan, et le seigneur Hurin, me dit-on, dirige les hommes du Gondor. » Mais le seigneur Faramir est le légitime intendant de cette cité. Où puis-je le trouver? Ici même, madame. Il fut grièvement blessé, mais il se trouve désormais sur le chemin de la guérison. Bien que je ne sache pas... Me conduirez-vous à lui? Alors vous saurez. Le seigneur Faramir marchait seul au jardin des maisons de guérison. La lumière du soleil le réchauffait et il sentait la vie affluer de nouveau dans ses veines. Mais il avait le cœur lourd, et son regard se portait vers l'est, au-dessus des murailles. Et le gardien se rendit à lui et prononça son nom. Alors, se retournant, il aperçut la dame Éowyn du Rohan, et la pitié remua son cœur, car il vit qu'elle était blessée, et son œil clairvoyant perçut le chagrin et l'agitation qui la hantaient. « Monseigneur, dit le gardien, voici la dame Éowyn du Rohan. Elle chevauchait avec le roi et fut gravement blessée, ce pourquoi elle est sous ma charge. Mais elle n'est pas satisfaite, et ils désirent parler à l'intendant de la cité.
« Ne vous méprenez pas sur ce qu'il dit, Seigneur, »
intervient Éowyn.
« Ce n'est pas le manque de soins qui me chagrine. On ne pourrait souhaiter plus bel endroit pour qui désire être guéri. Mais je ne puis rester dans l'oisiveté, désœuvré, en cage. J'ai voulu trouver la mort au combat, mais je ne suis pas morte, et la bataille se poursuit. »
Sur un geste de Faramir, le gardien salua et se retira.
« Qu'attendez-vous de moi, madame ?» demanda Faramir, « car je suis moi-même prisonnier des guérisseurs. »
Il la regarda et, en homme enclin à la pitié, il crut que sa beauté imprégnée de chagrin allait lui transpercer le cœur. Et elle le regarda, et malgré la grave tendresse qu'elle lisait dans ses yeux, elle sut, pour avoir grandi au milieu de guerriers, que c'était là un homme qu'aucun cavalier de la marche ne pourrait surpasser au combat.
« Que désirez-vous ? » dit-il de nouveau. « Si c'est en mon pouvoir, je vais vous l'obtenir. »
« Je voudrais que vous interveniez auprès de ce gardien pour qu'il me laisse partir, »
répondit-elle. Mais si sa contenance était encore haute, son cœur vacilla et, pour la première fois, elle douta d'elle-même. Elle craignit que cet homme de fière stature, à la fois sévère et doux, la crût simplement capricieuse, comme une enfant qui n'aurait pas la constance de mener une tâche fastidieuse à son terme.
« Je suis moi-même sous la responsabilité du gardien, » répondit Faramir, « et je n'ai toujours pas endossé mon autorité dans la cité. Mais si je l'avais fait, j'écouterais tout de même son conseil, et je ne m'opposerais pas à sa volonté en ce qui touche à la connaissance de son art, sauf en cas d'extrême nécessité. »
« Mais je ne souhaite pas la guérison, » répondit-elle. « Je désire aller à la guerre comme mon frère Éomer, ou mieux, comme le roi Théoden, car il est mort et a trouvé l'honneur et la paix. »«
Il est trop tard, madame, pour suivre les capitaines, même si vous en aviez la force, » dit Faramir. « Mais tous peuvent encore trouver la mort au combat, qu'ils le désirent ou non. Vous serez mieux préparés à l'affronter à votre manière si, pour le temps qui reste, vous vous pliez aux ordres du guérisseur. Il nous faut, vous et moi, souffrir les heures d'attente avec patience. »
Elle ne répondit pas, mais comme il la regardait, il lui sembla que quelque chose en elle s'adoucissait, comme si une terrible gelée s'avouait vaincue au tout premier présage du printemps. Une larme monta à l'œil de la jeune femme et ruissela sur sa joue, telle une goutte de pluie miroitante. Sa tête fière se courba quelque peu, puis, doucement, comme si elle s'adressait à elle-même plutôt qu'à lui.
« Mais les guérisseurs voudraient que je reste alitée pendant encore une semaine, »
dit-elle.
« Et ma fenêtre ne donne pas sur l'est. »
Sa voix était à présent celle d'une fille, jeune et chagrine. Faramir sourit, mais son cœur se gonfla de pitié. «
Votre fenêtre ne donne pas sur l'est, » dit-il. « Cela peut s'arranger. En cela, j'interviendrai auprès du gardien. Si vous voulez bien demeurer ici sous notre garde, madame, et prendre le repos qu'il vous faut, alors vous pourrez marcher à loisir dans ce jardin ensoleillé, et vous pourrez contempler l'est, où sont allés tous nos espoirs. Et vous me trouverez ici, à marcher et à attendre, et à contempler l'est comme vous. Cela apaiserait mon souci si vous daigniez parler avec moi ou marcher quelquefois en ma compagnie. »
Alors elle leva la tête et le regarda de nouveau dans les yeux, et son pâle visage prit un peu de couleur.
« Comment apaiserai-je votre souci, monseigneur ? »
demanda-t-elle.
« Et je ne désire pas la compagnie des vivants. »«
Préférez-vous une réponse franche ? » dit-il.
« Oui. » »«
En ce cas, Éowyn du Rohan, je vous dirai que vous êtes belle. Dans les vallées de nos montagnes, il est des fleurs d'une beauté éclatante et des jeunes filles encore plus belles. Mais je n'ai encore vu au Gondor ni fleurs ni femmes plus ravissantes ni plus tristes. Peut-être ne reste-t-il que quelques jours avant que les ténèbres s'étendent sur notre monde, et j'espère les affronter sans défaillir quand elles viendront. Mais mon cœur serait plus léger si je pouvais vous voir tant que le soleil brille. Car nous sommes tous deux passés, vous et moi, sous les ailes de l'ombre, et la même main nous a secourus.
« Hélas, pas moi, Seigneur, »
lui dit-elle.
« L'ombre m'écrase encore. Ne comptez pas sur moi pour votre guérison. Je suis une fille guerrière, et ma main n'est pas tendre. mais je vous remercie pour cela au moins de n'être pas confiné à ma chambre. Je serai libre d'aller à mon gré par la grâce de l'intendant de la cité. »
Et lui fit une révérence et s'enfuit vers la maison. Mais Faramir resta longtemps à marcher seul dans le jardin, et désormais ses regards s'attardaient plus souvent sur la maison que sur les remparts de l'Est. Quand il eut regagné sa chambre, il fit appeler le gardien, et il entendit tout ce que l'autre put lui dire au sujet de la dame du Rohan.
« Mais je ne doute pas, seigneur, dit le gardien, que vous serez mieux renseigné par le demi-homme qui est avec nous, car il était de la suite du roi et se trouvait aux côtés de la dame à la toute fin, dit-on. »
Merry fut donc envoyé auprès de Faramir, et ils passèrent le reste de la journée dans un long entretien, où Faramir apprit bien des choses, plus encore même que ce que Merry trouva bon d'exprimer en mots. Et il crut alors comprendre un peu mieux la tristesse et le trouble d'Éowyn du Rohan. Et par cette belle soirée, Faramir et Merry se promenèrent dans le jardin, mais elle ne vint pas. Le lendemain matin, tandis que Faramir sortait des maisons, il la vit toutefois, debout sur les remparts, et elle était tout de blanc vêtue, et son vêtement luisait au soleil. Il l'appela, et elle descendit, et ils marchèrent sur l'herbe ou encore s'assirent ensemble sous un arbre vert, tantôt en silence, tantôt parlant. Et chaque jour qui suivit, ils firent de même. Et le gardien, regardant de sa fenêtre, se réjouit à cette vue, car c'était un guérisseur, et son souci fut allégé. Et il voyait bien que, si lourde qu'ait été la peur et l'appréhension qui pesaient alors sur le cœur des hommes, ces deux êtres dont il avait soin tout au moins prospéraient et récupéraient de jour en jour. Ainsi vint le cinquième jour depuis que la dame Éowyn s'était rendue pour la première fois auprès de Faramir. Et voilà qu'ils se tenaient de nouveau ensemble sur les murs de la cité et y regardaient au loin. Aucune nouvelle n'était encore venue et tous les cœurs étaient noirs. Le temps aussi s'était assombri. Il faisait froid. Un vent pénétrant, surgi à la nuit, soufflait maintenant du nord et fraîchissait. Mais les terres alentour étaient grises et mornes. Ils étaient couverts de vêtements chauds et de lourdes capes, et par-dessus le tout, la dame Éowyn portait une mante d'un bleu profond, de la couleur d'un soir d'été, ornée d'étoiles argentées sur la bordure et à la gorge. Faramir l'avait envoyée chercher, puis l'avait déposée sur les épaules d'Éowyn. Et il trouva qu'elle était belle, belle comme une reine en vérité, tandis qu'elle se tenait là, à ses côtés. La mante avait été confectionnée pour sa mère, Finduilas d'Amroth, morte prématurément et dont il ne gardait que le souvenir d'une beauté lointaine et celui de son premier chagrin, si bien que ce vêtement lui semblait convenir à la beauté et à la tristesse d'Éowyn. Mais elle frissonnait à présent sous la mante étoilée, et elle regardait vers le nord par-delà les terres grises du proche horizon, dans l'œil du vent froid, où le ciel était dur et clair. « Que cherchez-vous, Éowyn ? » demanda Faramir.
« La porte noire n'est-elle pas là-bas ? » dit-elle. « Et ne doit-il pas y être à présent ? Il y a 7 jours qu'il est parti. »«
7 jours, » dit Faramir. Mais ne pensez aucun mal de moi si je vous dis qu'ils m'ont apporté une joie et une douleur que je ne pensais jamais connaître. La joie de vous voir, mais la douleur, car à présent la peur et le doute de cette triste époque me sont d'autant plus noirs. Éowyn, je ne veux pas voir ce monde prendre fin, ni perdre si vite ce que j'ai trouvé.
Perdre ce que vous avez trouvé, seigneur ?
Répondit-elle. Mais elle le regarda avec gravité, et ses yeux étaient bons.
« Je ne sais ce que vous avez trouvé en ces circonstances que vous pourriez perdre. Mais allons, mon ami, n'en parlons pas. Ne parlons pas du tout. Je suis au bord d'un terrible précipice, et il n'y a que des ténèbres dans le gouffre à mes pieds. Mais j'ignore si une lumière est derrière moi. Car je ne puis encore me tourner. J'attends quelque coup du destin. »
« Oui, nous attendons le coup du destin, » répéta Faramir.
Ils ne dirent plus rien. Et il leur sembla alors, comme ils se tenaient sur le rempart, que le vent tombait, que la lumière mourait, que le soleil s'était voilé, et que tous les sons de la cité et des terres alentour s'étaient tus. Nul vent, nulle voix, ni chant d'oiseaux, ni bruissement de feuilles, ni leur propre souffle ne s'entendaient plus.
Même les battements de leur cœur étaient suspendus. Le temps s'arrêta.
Et comme ils se tenaient ainsi, leurs mains se rencontrèrent et se joignirent, bien qu'ils n'en eussent pas conscience. Et ils restèrent à attendre, ils ne savaient quoi.
Puis, très vite, il leur sembla qu'au-dessus des lointaines montagnes se levait une autre grande montagne d'obscurité, comme une immense vague prête à engloutir le monde, et qu'elle était striée d'éclairs. Puis une secousse parcourut la terre, et ils sentirent les murs de la cité trembler sous leurs pieds. Un son semblable à un soupir monta de toutes les terres alentour, et leur cœur se remit à battre tout à coup.
« Cela me rappelle Nouménor, » dit Faramir, et il fut surpris de s'entendre parler.
« Nouménor ?» dit Éowyn.
« Oui, » répondit Faramir. « Les terres de l'Occidental qui se sont abîmées, et cette grande vague noire partout sur les prairies et les collines, ne cessant d'avancer, mer de ténèbres inéluctables. J'en rêve souvent. »«
Ainsi vous croyez que les ténèbres approchent ?» dit Éowyn.
« Les ténèbres inéluctables ?»
Et soudain, elle se serra contre lui.
« Non, » dit Faramir, scrutant son visage. « Ce n'était qu'une image de l'esprit. J'ignore ce qui se passe. La raison qui ne doit rien au songe me dit qu'un grand mal est survenu et que nous sommes à la fin des jours. Mais mon cœur dit non, et tous mes membres se font légers, et un espoir et une joie me viennent que la raison ne saurait contester.
Éowyn, Éowyn, dame blanche du Rohan, en cette heure je ne crois pas qu'aucune ténèbre puisse demeurer. »
Et il se pencha pour lui baiser le front. Et ils se tinrent ainsi sur les murs de la cité du Gondor, et un grand vent se leva et souffla, et leurs chevelures soulevées, de jais et d'or, se mêlèrent dans la brise. Et l'ombre s'en fut, et le soleil fut dévoilé, et la lumière jaillit. Et les eaux de l'Anduin se muèrent en un reflet d'argent, et dans chaque maison de la cité, les hommes chantèrent la joie qui sourdait en leur cœur sans qu'ils pussent en deviner la source. Et avant que le soleil eût beaucoup décliné du zénith, arriva de l'Est un grand aigle, et il portait des nouvelles inespérées au nom des seigneurs de l'Est, criant
« Or, chantez, gens de la tour d'Anor, car le royaume de Sauron est fini pour toujours, et la tour sombre est jetée bas. Chantez et célébrez, gens de la tour de garde, car votre guet n'a pas été vain. » Et la porte noire est brisée, et votre roi est passé outre, et il est victorieux. Chantez et réjouissez-vous, enfants de l'Ouest, car votre roi rentrera au pays, et il demeurera parmi vous tous les jours de votre vie. Et l'arbre qui s'est desséché sera renouvelé, et il le plantera en haut lieu, et la cité sera bénie. Chantez, ô braves gens!
Et les gens chantèrent dans toutes les rues de la cité.